Laudetur Jesus Christus.
Le Monde, selon Donald Trump, trois jours après son altercation avec Volodymyr Zelensky, le président américain suspend son aide militaire à l'Ukraine. Kiev n'a qu'à se plier à ses exigences. Et puis, faute d'accord avec ses deux partenaires nord-américains, Donald Trump augmente de 25% à partir d'aujourd'hui les droits de douane sur les produits venant du Canada et du Mexique. La Chine aussi est concernée, la guerre commerciale est lancée. Un plan de l'enfer, c'est le nom choisi par Israël pour les opérations que son armée pourrait lancer contre les Palestiniens de la bande de Gaza si le Hamas persiste à ne pas vouloir prolonger la phase de l'accord de cessez-le-feu. Premier déplacement à l'étranger du président libanais Joseph Aoun en Arabie Saoudite. Il a rencontré hier soir le prince héritier Mohamed Ben Salman. Cette visite doit sceller le rapprochement entre le Liban et l'Arabie Saoudite après plusieurs années de brouille. La guerre dans l'est de la RDC, des groupes rebelles, des acteurs étrangers. Nous reviendrons dans notre dossier sur les enjeux de ce conflit et sur l'apparente faiblesse de l'armée congolaise face aux rebelles du M23. C'est à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Tout d'abord, un point sur la santé du pape qui a dormi toute la nuit et qui se repose maintenant après avoir eu deux crises respiratoires aiguës hier en raison d'une accumulation de mucus dans les bronches. Deux bronchoscopies ont été réalisées. Dans l'après-midi, la ventilation mécanique non invasive a été reprise. Le pape est toujours resté conscient. Il a collaboré à tous les soins. Le tableau clinique du pape reste cependant complexe et le pronostic demeure réservé. Hier, malgré son état de santé, le pape avait envoyé un message à l'Académie pontificale pour la vie dans lequel il défendait le multilatéralisme. Et multilatéralisme, un concept qu'ignore Donald Trump. La preuve avec sa dernière décision qui sonne comme un coup de tonnerre, le président américain suspend en effet les aides militaires à l'Ukraine. Une pause ordonnée après l'altercation vendredi avec son homologue ukrainien. Les États-Unis sont le pays qui livre le plus d'aides militaires à l'Ukraine, près de 180 milliards de dollars d'aide votés depuis février 2022, dont une dernière tranche de 66 milliards décidée par Joe Biden avant de quitter le pouvoir. Marine Oriot, comment expliquer un tel revirement?
Xavier, tout simplement pour mettre la pression à l'Ukraine pour s'assurer que celle-ci contribue à la recherche d'une solution de la guerre, dit-on à la Maison-Blanche. Les voix précisent aussi que c'est une pause et non une fin, mais cette pause commence immédiatement. Tous les équipements militaires américains qui n'ont pas encore été envoyés à l'Ukraine n'iront pas. Même sort pour les armes actuellement en transit ou celles déjà en Pologne. Le montant de l'aide américaine, vous l'avez dit, avait été l'un des derniers dossiers du président sortant, Joe Biden. Une grande partie de l'aide votée ces quatre dernières années est déjà soldée, mais il reste effectivement encore des équipements et des armes à livrer. Voilà donc de quoi acculer Volodymyr Zelensky. Cette nuit, Donald Trump a répété que le chef de l'État ukrainien ne voulait pas de la paix. Donald Trump, qui ne perd pas non plus de vue l'accord sur les minerais ukrainiens, en échange de l'aide américaine livrée précédemment. Pas de réaction pour l'instant de la part de l'Ukraine ou de ses alliés européens, ni de la Russie, pour qui ce revirement est évidemment, Xavier, une victoire.
Marine Oriot, la Russie qui ne sera plus visée par des cyberopérations américaines. Elles ont été en effet suspendues par le secrétaire américain à la Défense. Moscou a donc le champ libre concrètement pour mener des attaques informatiques contre l'Ukraine ou contre des pays occidentaux. Gare à ceux qui ne se plient pas aux exigences de Donald Trump. Le Mexique et le Canada en font aussi l'expérience depuis 2h30 depuis que Washington a augmenté de 25% les droits de douane sur les produits importés de ses deux voisins. Aucun accord n'ayant été trouvé avec Ottawa et Mexico sur cette question. Le Canada répondra en augmentant aussi de son côté les droits de douane sur les produits américains. Quant au Mexique, le gouvernement se dit prêt à réagir. À Mexico, Diego Calmar.
Depuis qu'elle a pris les rênes du pays il y a 5 mois, Claudia Sheinbaum sait que ses droits de douane menacent le Mexique. Sang-froid, sérénité et patience, a martelé la présidente mexicaine hier lors de sa conférence de presse quotidienne. Elle a confirmé des réunions entre les équipes sécurité et commerce des deux pays qui progressent positivement afin d'éviter la mise en place de ces taxes douanières, tout en ajoutant que toute décision prise par les États-Unis entraînera une action immédiate de la part du Mexique. On sait qu'en cas d'application de frais de douane, le pays cherchera à renforcer son marché interne afin de réduire la dépendance commerciale envers les États-Unis. Sheinbaum vise aussi une diversification des exportations et de nouveaux partenaires commerciaux en Europe, en Asie et en Amérique latine dans le cas où les rapports avec les États-Unis se refroidiraient. Elle a aussi annoncé la mise en place d'un plan de soutien aux secteurs qui pourraient être touchés, l'industrie automobile, le textile ou bien encore l'agriculture. Dans l'industrie, c'est le branle-bas de combat. La production redouble, le but, faire passer un maximum de marchandises au nord de la frontière pour éviter les frais de douane. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Et Donald Trump ne s'en est pas pris qu'à ses deux voisins. Il a annoncé aussi de nouvelles taxes sur des produits chinois. Pékin a réagi en augmentant là aussi les droits de douane sur une série de produits américains, en particulier le blé, le maïs et le coton. Rapport de force aussi à la base des relations entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien entend prolonger la première phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ce que refuse le mouvement palestinien qui veut lui passer à la seconde. Pour contraindre alors le Hamas à libérer les derniers otages, le premier ministre israélien a préparé un plan de l'enfer au nom évocateur. À Tel Aviv, les précisions de Julia Ganancia.
Les négociations pour prolonger la trêve sont au point mort depuis que le Hamas a rejeté la prolongation de la première phase de l'accord, préférant passer à la seconde phase. En représailles, Israël a dévoilé une nouvelle stratégie dénommée le plan de l'enfer, qui prévoit une pression graduée sur le Hamas avec l'arrêt des livraisons d'aide humanitaire, puis le déplacement de forces des habitants du nord de Gaza au sud, l'arrêt de la fourniture d'électricité et enfin la reprise des combats si le Hamas ne plie pas. De son côté, l'organisation terroriste veut l'application immédiate de la phase 2 qui doit aboutir au retrait total de l'armée israélienne de Gaza contre la libération de tous les otages. Ils sont encore 59 aux mains de l'organisation terroriste, dont 35 présumés morts. Dans l'impasse, Israël attend l'arrivée de Steve Witkoff dans la région à la fin de la semaine. L'émissaire du président américain doit, je cite, « travailler à l'extension de la première phase de l'accord ou à l'avancée de la seconde ». À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
C'est l'Arabie saoudite qui a accueilli le président libanais pour son premier déplacement à l'étranger. Joseph Aoun s'est entretenu en effet hier soir à Riyad avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Les deux hommes doivent maintenant participer aujourd'hui à un sommet arabe qui doit se tenir au Caire en Égypte. À Beyrouth, les précisions de Paul Khalife.
En choisissant l'Arabie saoudite comme première destination à l'étranger depuis son élection le 9 janvier, Joseph Aoun donne le ton. Le Liban veut rétablir avec le royaume ses relations historiques, mises à mal ces dernières années. À son arrivée à Riyad, le président libanais a déclaré que ses entretiens avec Mohammed Ben Salman visent à préparer une autre visite en Arabie saoudite, au cours de laquelle les deux pays signeront des accords pour renforcer leur coopération. 22 accords économiques, financiers et dans les domaines du tourisme et de la coopération militaire devraient être conclus entre les deux pays dans les prochains mois. Joseph Aoun a rendu un vibrant hommage aux efforts déployés par l'Arabie saoudite pour renforcer la stabilité et la sécurité du Liban et pour aider au redémarrage de la vie institutionnelle. Le chef de l'État libanais avait exprimé lors d'une interview télévisée vendredi le souhait que le Liban soit intégré dans le gigantesque projet saoudien de développement appelé Vision 2030. À court terme, Beyrouth souhaite obtenir de Riyad trois choses. La levée de l'interdiction faite aux ressortissants saoudiens de se rendre au Liban, une aide économique d'urgence et un soutien politique et diplomatique pour obtenir le retrait israélien total du sud du Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et les dirigeants arabes qui doivent participer donc aujourd'hui au Caire à un sommet concernant la bande de Gaza. Ces dirigeants doivent parler notamment d'un projet alternatif à celui de Donald Trump sur Gaza qui prévoit un contrôle américain du territoire et l'expulsion de sa population. Le 12 avril prochain, les Gabonais éliront leur président de la République, première élection démocratique depuis le coup d'État de 2023 qui avait renversé Ali Bongo. Parmi les candidats, le général Brice Oligui Nguema, qui dirige le pays depuis août 2023. Il entend rebâtir le pays. Il avait pourtant promis de rendre le pouvoir aux civils. Quel sort a été réservé à au moins 130 malades et blessés soignés dans deux hôpitaux de Goma et qui ont été enlevés lundi par des rebelles du M23? L'ONU se dit gravement préoccupée. Elle précise que ces hommes sont des soldats congolais ou des membres de la milice Wazalendo. Quelques civils ont été aussi emmenés avant d'être relâchés. Selon des témoignages du personnel soignant, aucune nouvelle en revanche donc concernant les autres personnes. On reste en RDC pour notre dossier. La RDC où, dans l'Est, la guerre prend des dimensions inattendues, que ce soit pour l'État congolais comme pour la communauté internationale, alors que les rebelles du M23 ne cessent de gagner du terrain, défiant les appels à la désescalade et au cessez-le-feu lancé par diverses instances internationales. Des troupes du Burundi, alliées de Kinshasa, ont été déployées au nord d'Uvira, au sud Kivu, en soutien à l'armée congolaise. Le rôle du Rwanda soutien du M23 continue d'être pointé du doigt. Quels sont les véritables enjeux de cette guerre? Comment expliquer l'apparente faiblesse de l'armée congolaise qui a permis à plusieurs villes comme Bukavu de tomber sans résistance? Nous avons posé la question au père Toussaint Kafariré, jésuite congolais, directeur du centre Aroupé pour la recherche et la formation basé à Lubumbashi, au sud-est de la RDC. Il préside aussi par ailleurs l'African Studies Society of Africa.
La première raison qui me vient à l'esprit, c'est de voir la barbarie et les atrocités qui s'étaient passées à Goma après que les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 se soient emparés de la ville. Les militaires à Goma avaient résisté pendant un temps. On a entendu parler des Wazalendo, c'est-à-dire les patriotes résistants. Mais lorsqu'ils ont été submergés par la force des armes qui venait de notre voisin, alors, on a vu qu'il y a eu des massacres alors qui ont suivi. Cette barbarie, les gens voulaient l'épargner quand même à la ville de Bukavu. Et si vous avez suivi, l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, avait déjà écrit une lettre pour demander au gouverneur et aux autorités qu'on épargne à la population de Bukavu un tel massacre ou un tel carnage. Une deuxième raison que je peux évoquer peut avoir avec lassitude qui semble se généraliser dans la population. Les préoccupations à un moment donné des hommes politiques à Kinshasa et surtout du parti au pouvoir étaient de changer la constitution. Et les gens n'ont pas arrêté de montrer que ce n'était pas une priorité parce que les questions des sociétés, les questions sociales, tout ce que nous avons fait comme revendication pour une meilleure gestion de la chose publique n'ont pas été écoutées.
Y a-t-il une idéologie justifiable poursuivie par les M23 qui puisse mobiliser la population autour d'eux?
On a écouté les discours que ces occupants développent chaque fois qu'ils arrivent et investissent une ville. Les discours, c'est essentiellement de fustiger, évidemment, les méfaits, les abus de pouvoir au niveau du gouvernement de Kinshasa. Ça, tout le monde le sait, tous les Congolais le savaient. Oui, le M23 est en train d'accuser le gouvernement de Félix Tshisekedi pour tous les méfaits que nous connaissons, comme nous disions, la corruption et tout le reste. Mais il ne faut pas oublier que celui qui porte le flambeau de l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, et qui marche avec les M23, M. Corneille Nanga, a été le président de la Commission nationale électorale indépendante du Congo. Et que c'est lui qui, il l'a dit lui-même, qui a concocté un plan pour donner le pouvoir à M. Félix Tshisekedi, alors qu'il savait tout à fait bien que la souveraineté populaire dans ces élections élisait M. Martin Fayoulou comme président. Et donc d'avoir saboté à un moment de l'histoire la souveraineté, la volonté de toute une nation, de tout un peuple pour des calculs politiques, moi je pense que ne peut pas donner aucune autorité morale à celui qui va parler aujourd'hui pour critiquer la corruption de ce gouvernement qu'il a aidé à mettre en place.
Finalement, on peut se demander quelle issue peut-on prévoir à cette guerre si on doit espérer que l'État congolais reprenne le contrôle de son territoire?
Si on avait une solution, on l'aurait déjà appliquée depuis 30 ans et nous serions en paix. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que nos populations et nos communautés n'ont pas de problèmes entre elles. Les gens se côtoient, les gens se marient, s'intermarient, les gens se parlent, les gens font les commerces ensemble. Le problème, c'est un problème de l'instrumentalisation politique. Et donc, c'est au niveau des politiques que nous devons trouver cette solution. Mais je pense que c'est là aussi qu'il y a un problème. C'est le problème de leadership sur le continent africain. Il faudra que tous les Congolais, en ce moment que nous traversons, qui est un moment sombre, qu'ils oublient leurs intérêts et querelles de chapelle, qu'ils se mettent ensemble comme un peuple, comme une nation. C'est un peuple qui a vécu et survécu beaucoup, beaucoup d'autres épreuves par le passé. Et donc, c'est un peuple qui est encore capable aujourd'hui de le faire.
Interrogé par Fabrice Bakendekere, le père Toussaint Kafariré était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.